Je vous invite donc à suivre ce matin Nicodème. Et avec lui, nous traversons presque tout l'évangile de Jean, et cette traversée est unique en son genre. En effet, de tous ceux que Jésus rencontre au fil des pages du récit, et mis à part bien sûr ses disciples qui le suivent, Nicodème est le seul à revenir au long de l'avancée du récit et de celle de Jésus révélant le Père qui l'a envoyé. Alors de sa rencontre nocturne avec Jésus à l'ensevelissement dans le jardin, c'est comme si Nicodème avançait dans l'ombre de l'Évangile, comme une figure de persévérance, d'insistance, une figure singulière mais ô combien révélatrice d'une humanité appelée à sortir de ce qui la cache, de ce qui la masque, à sortir de ces lieux de repli et d'enfermement. Alors c'est dire qu'il faudrait en fait lire tout l'évangile de Jean pour avancer au pas de Nicodème, mais nous le ne ferons pas ce matin. Et je vous invite seulement à lire seulement trois extraits dans trois chapitres. Premièrement, au chapitre 3, les versets 1 à 12, il s'agit de la version de la Nouvelle Bible Second avec juste une modification. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver, Jésus, de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème lui répondit « Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, « Comment cela peut-il advenir ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui es le maître en Israël et tu ne sais pas cela ?»« Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ?» Ensuite, dans toujours l'évangile de Jean, mais au chapitre 7, les versets 45 à 52. Les gardes revinrent vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé ainsi. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé égarer ? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il est fait, ce qu'il fait ?» Ils lui répondirent, « Serais-tu de Galilée, toi aussi ? Cherche bien, et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. » Et enfin, au chapitre 19, les versets 38 à 42. Après donc la mort de Jésus. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Joseph vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui était d'abord venu le trouver de nuit, vint aussi en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de bandelettes avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où encore personne n'avait été mis. C'est donc là qu'ils mirent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Nicodème vient la nuit. Forcément la nuit. Tout commence toujours la nuit, dans l'obscurité. Dans les ténèbres déjà évoquées dans le prologue de l'Évangile, la lumière a brillé dans les ténèbres. Selon Jean, la nuit représente le temps et la puissance de ce qui rejette la lumière qui est la parole, qui est la vie, qui est Dieu. La nuit, c'est le temps de l'ignorance, de l'intelligence obscurcie, de la mécompréhension. C'est le temps de la dissimulation, des pensées cachées, des intentions détournées. C'est le temps de la trahison aussi. Il fait nuit, lorsque Judas sort pour livrer Jésus à ceux qui veulent le faire taire et le faire mourir. Mais la nuit de Nicodème n'est peut-être pas aussi sinistre que celle de Judas. Il faut bien qu'il y ait la nuit, pour que l'aube paraisse, pour que le jour se lève. L'évangile de Jean, comme les autres évangiles, possède cette capacité à spiritualiser le quotidien, c'est-à-dire à ouvrir la dimension quotidienne, spirituelle, la dimension spirituelle dans le concret du familier. Cette capacité à faire regarder l'ordinaire en y discernant des reflets, des échos, des métaphores et des symboles dont les évangiles sont parsemés. Et ainsi, les éléments du quotidien sont transfigurés. Ils sont portés au-delà de leur simple composition et effet. L'eau, par exemple, même l'eau quand vous faites la vaisselle, les oiseaux, les fleurs des champs, les graines, le soleil et la nuit. Ainsi, la nuit n'est pas définitive. Et cette simple constatation ordinaire, quotidienne, de chaque matin, eh bien cette simple constatation aide à croire qu'il n'y a pas de fatalité de la nuit, comme elle aide à dissiper l'illusion qu'il pourrait ne pas y avoir de nuit, d'obscurité ou de ténèbres. Si un jour cela se produit, nous n'aurons plus à réfléchir à ce qu'est la nuit, à la manière de la supporter, de la traverser. Nous n'aurons plus à méditer sur l'importance des veilles ou des rêves. Nous n'aurons plus à nous débattre avec des insomnies. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, quelle est la nuit de Nicodème ? Elle pourrait être la marque seulement de la clandestinité. Nicodème tiendrait alors de ses chats, qui sont tous gris la nuit, un humain qu'on pourrait confondre avec un autre, avec n'importe qui. Et si Nicodème souhaite ne pas être vu, ne pas être reconnu, c'est peut-être parce qu'il craint le regard que porteraient sur lui les pharisiens de Jérusalem et ceux qui, dans le temple, viennent de voir Jésus enchasser les marchands, les changeurs et renverser tout ce qui sert au système économique accompagnant la pratique des sacrifices. Peut-être Nicodème ne veut-il pas être soupçonné de s'être laissé convaincre par les signes accomplis par Jésus, on ne sait pas lesquels, ni soupçonné de lui accorder sa confiance. Mais en même temps, on peut se demander ce que craint Nicodème. Son intérêt envers Jésus n'est pas incongru. Nicodème est chef des Juifs. Il est le maître, l'enseignant en Israël, Jésus le sait, le lui dit. Et le nom de Nicodème signifie « peuple vainqueur ». Nicodème est donc dans le récit tout auréolé de prestige, d'autorité, de pouvoir, de savoir. Alors qu'a-t-il à redouter en rencontrant le rabbi de Galilée ? Et puis, ce qu'il a à dire à Jésus n'est en rien un secret. Nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est pas avec lui. L'entrée en matière semble plutôt positive. Elle est pourtant autant problématique que la venue de nuit. Peut-être même indique-t-elle une nature de la nuit de Nicodème. Nous savons, dit Nicodème, il n'y a pas que la nuit pour le cacher. Nicodème se dissimule sous un pluriel. Il se retranche aussi derrière un savoir commun, d'autant plus assuré qu'il est partagé. Nicodème ne prend pas de risques. Il est là, mais pas tout seul ou pas tout à fait. Et les précautions qu'il prend constituent autant d'épaisseur, de distance entre lui et celui qu'il vient voir. Nous savons que tu es, etc., dit Nicodème. Nous savons que tu es, c'est une parole de domination, une parole indiscutable, une parole qui encadre celui au sujet duquel elle parle, qui l'encadre pour le contenir dans un champ précis, sur un terrain bien délimité. Le savoir sur l'autre, tout savoir sur l'autre, ne lui laisse pas d'espace, pas de respiration, pas de chance. Nicodème est venu pour une discussion de rabbi à rabbi, une discussion savante, de maître à maître, d'enseignant à enseignant. Mais même si le cadre est favorable, le savoir et le pluriel posent un rapport qui tient plus de la force que de l'accueil. Nicodème veut prendre l'avantage et maîtriser la situation et l'entretien. Il est chef, et c'est en chef qu'il parle, même si c'est aimablement. Il y a une troisième hypothèse. La nuit, le pluriel, le savoir, peuvent aussi être signe qu'en réalité, Nicodème ne sait pas que penser. Il ne sait pas ce qui le pousse cette nuit à se rendre auprès de Jésus. Il ne le sait pas tout enseignant, maître et chef qu'il est. Mais sait-on toujours, clairement, ce qui pousse à chercher ? Sait-on toujours clairement ce qui en soi, intuition, désir, faim ou soif, travail et met en mouvement? Sait-on toujours quel est le manque, la place vacante, vide, mais qui pourtant fait comme une épine dans l'être, dans l'âme? Il n'y a pas que la volonté, la pensée, le savoir, la rationalité qui travaillent intérieurement et qui indique une possibilité, il n'y a pas qu'elle qui indique une possibilité encore inconnue, sans que l'on sache à l'avance où elle conduira, ni même si elle aboutira. Comme une gestation intérieure qui commence dans le secret et l'ignorance de celui qui la porte, et ne s'éclaire qu'en cours d'élaboration, en cours d'avancée, parfois en une grande illumination, et parfois petit à petit. Nicodème est un travailleur nocturne. Car la nuit, c'est bien le temps de la solitude, celui du face-à-face avec soi-même ou du retour sur soi, le temps de la suspension de toutes les charges quotidiennes et des représentations publiques. Alors bien sûr, dans l'évangile de Jean, la nuit marque l'absence de foi en celui que Dieu a envoyé. Une incrédulité que ne suffit pas à lever véritablement les signes que Jésus accomplit, car Jean le précise juste avant l'entrée en scène de Nicodème, « Si beaucoup mettaient leur foi en Jésus à cause des signes, lui ne se fiait pas à eux, parce que lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. » Alors Nicodème peut bien replier ce qu'il a vu dans un savoir partagé par d'autres. Nous ne savons pas exactement ce qui le conduit vers Jésus dans cette nuit-là. La nuit, tout est flou. et ce que Jean donne à savoir au sujet de Nicodème n'empêche pas cette figure de rester énigmatique. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Jésus n'entre pas du tout en débat sur le terrain préparé par Nicodème. Mais c'est comme s'il allumait un projecteur dirigé tout droit sur le pharisien. Il ne s'agit plus de se cacher derrière un pluriel. Jésus s'en tient au singulier de quelqu'un, une personne. Pas un groupe, pas un parti, pas une caste, mais une personne. Il n'y a en effet rien de plus singulier qu'une naissance. Autant elle est commune à chaque être humain, autant elle est toujours particulière. Elle n'est pas partagée. Il n'est pas non plus possible de naître par procuration ou de naître pour quelqu'un d'autre. Et quand on naît, on ne peut pas non plus se fondre dans un groupe, puisqu'il s'agit justement de naître, c'est-à-dire d'apparaître, de surgir, de venir au jour, non seulement de voir le jour, mais d'être vu, et d'être vu au singulier. Une naissance est exclusivement personnelle. Il ne s'agit pas non plus de se cacher derrière un savoir. Une naissance, c'est une expérience, et une expérience ouverte. On peut bien en connaître les processus biologiques et physiologiques. Naître, c'est bien autre chose que cela. D'ailleurs, le terme grec est plus précisément celui de l'engendrement, qui indique l'origine et qui introduit dans une histoire, et pas seulement dans le fait d'être vivant. Et il ne suffit pas seulement de savoir quelle est l'origine, ni quelle est l'histoire, puisque par la naissance, il s'agit de vivre, d'être vivant, d'aller au-delà. Et dès le prologue, l'évangile de Jean a posé qu'il ne suffit pas d'être en vie pour être vivant. Être vivant, c'est-à-dire vivre de la vie qui est don de la parole qui est lumière et que le monde ne reçoit pas. Naître à nouveau ou naître d'en haut, le mot grec « anoten » comporte les deux sens, et ce n'est pas la peine de choisir, car les deux traductions parlent de la qualité particulière de cette naissance, seconde naissance. Naître à nouveau dit que la naissance dont parle Jésus est une expérience tout aussi singulière que la naissance biologique. Naître à nouveau dit que cette seconde naissance est tout aussi essentielle que la naissance biologique. Naître d'en haut dit que la seconde naissance est le fruit d'un don divin, pas celui d'une volonté humaine. Non d'une volonté de chair, est-il écrit dans le prologue, mais de Dieu. Naître d'en haut dit que l'origine de celui qui est ainsi né se tient ailleurs que dans ce qu'il a fait être au monde. Alors, comment ? Demande Nicodème par deux fois. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Comment cela peut-il advenir ? Là, Nicodème ne se cache plus. Il n'est plus assuré dans son prestige, ses fonctions, son savoir. Il est seulement Nicodème qui a basculé de son terrain familier par le choc provoqué par les paroles de Jésus. L'évangéliste Jean met ici en scène un procédé bien connu, celui du malentendu. Et il est vrai, hélas, qu'une lecture trop hâtive et trop superficielle du récit peut faire passer Nicodème pour un ignorant des subtilités du langage, de l'usage des métaphores et des symboles. Et cette malheureuse lecture a conduit à faire de Nicodème un fameux nigaud. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est une définition que vous pouvez trouver dans des grilles de mots croisés. Fameux nigaud en 8 lettres, c'est Nicodème. Une regrettable équivalence dont le dictionnaire de l'Académie française lui-même rencontre dès 1835 et au moins pendant un siècle, Nicodème, nom commun, signifiant un homme simple et borné, un niais. Si vous lisez le journal de Stendhal, vous pouvez effectivement trouver trace de cet usage du mot Nicodème. Mais dans l'Évangile selon Jean, le procédé du malentendu ne s'exerce pas au détriment du personnage qui ne comprend pas, pas encore. Donc il ne s'agit pas de se moquer de Nicodème, ni de la Samaritaine au chapitre suivant, à qui il arrive le même malentendu. Mais de mesurer combien les paroles de Jésus sont déstabilisantes, et accepter qu'elles ne puissent être immédiatement comprises, c'est-à-dire prises en soi comme un nouvel éclairage de l'existence. Comment, interroge Nicodème. Comment, c'est une question qui est posée par quelqu'un qui assume de ne pas savoir. Comment, c'est aussi une question posée par quelqu'un qui ne craint pas la réponse. Comment, c'est une question posée par quelqu'un qui comprend qu'il a quelque chose à comprendre. Et ce n'est déjà pas si mal. S'il y a une saveur de naïveté dans les questions de Nicodème, la naïveté n'est ni crédulité ni stupidité. Naïveté, c'est un mot de la famille de nativité, de naissance, qui porte en elle, cette naïveté, l'innocente ignorance de celui qui se tient au seuil de la vie, au seuil d'un chemin de compréhension. Mais nous, en attendant, nous en savons un peu plus sur Nicodème. Une forme d'humilité, une forme de courage, une forme de curiosité, on pourrait dire d'ouverture d'esprit. Ce qui arrive à Nicodème, c'est que les paroles de Jésus ont ouvert un écart entre les représentations de Dieu et de l'existence qui sont celles de Nicodème et celles de Jésus. Vous vous souvenez que le pharisien avait commencé l'entretien en cherchant à établir une forme de connivence entre Jésus et lui. Eh bien, Jésus l'en décale radicalement. Et s'il y a décalage, c'est parce qu'il y avait calage. Celui d'une personne calée dans la représentation qu'elle a d'elle-même ou que les autres ont d'elle. Celui d'une personne bien installée dans ce qu'elle sait. Celui d'une personne incluse dans un groupe, un clan, un parti, une famille. Les paroles de Jésus, la parole qui est Jésus, décolle cette adhésion à ce qui est, en introduisant un espace qui laisse passer le vent, l'esprit, la liberté, et qui ouvre ainsi un devenir. L'évangile de Jean, c'est l'évangile du devenir, signifié ici par la naissance à nouveau, en haut. Et ce devenir vient grâce à une parole qui n'est pas creuse, une parole qui n'est pas non plus culpabilisante ni contraignante, une parole qui fait décoller, qui aère, qui libère. L'évangile de Jean déplie ce devenir depuis le prologue dans lequel Jean indique que la vie n'est pas seulement une condition, celle d'être vivant, mais aussi une vocation, devenir enfant de Dieu, naître d'esprit dans l'entretien de Jésus avec Nicodème. Il est également écrit « voir le règne de Dieu ». C'est aussi une expression qui rend compte de la vocation de la vie, telle que Jésus vient la rendre possible pour ceux qui écoutent sa parole, pour ceux qui écoutent la parole qu'il est. Et la vocation de la vie, c'est la vie éternelle. Car si la vie comme condition est limitée, la vie comme vocation, la vie éternelle, est débordante, elle est surabondante. Comme le pain multiplié d'être rompu, comme le don de la vie aux brebis par le bon berger. Il s'agit de passer du vital à la vitalité, de la flaque à la source jaillissante, de l'étale à la marée ou au mascaret. Ce que produit la parole de Jésus, la parole qui est Jésus, c'est de défaire les ajustements, les coïncidences au réel dont le savoir se satisfait, où la pensée tourne sur elle-même, où le conformisme s'installe et où l'élan vital est étouffé. Pour que Nicodème puisse comprendre, prendre conscience de l'écart entre la vie et la vie éternelle, Jésus le fait tomber de son piédestal de savoir et de prestige avec cette phrase ajustée, ajustée comme un coup de poing peut-être, c'est un peu brutal, mais surtout ajustée, me semble-t-il, à la quête de Nicodème, cette quête imprécise mais véritable que Jésus discerne, lui qui connaît, écrit l'évangéliste, ce qui est dans l'homme. Qu'est-ce que croire fait à la vie ? Qu'est-ce que vivre ? Tout ce qui drape et occupe Nicodème n'a pas supprimé cette question, cette quête, peut-être comme une insatisfaction profonde qui pointe et qui perce à travers les succès, mais aussi à travers les fragilités, les contradictions, les ambiguïtés que chacun recèle en lui-même. Naître de nouveau, naître d'en haut du vent de l'esprit et de la liberté que l'esprit comporte et entraîne, c'est dire que nul ne peut être enfermé dans son histoire, dans son origine, dans un destin qu'il soit forgé par lui-même ou assigné par d'autres. La vie comme éternelle comporte cette dimension dépassant ce dont une personne dispose par son héritage, ses possessions, son histoire, son savoir, dépassant tout ce qu'on peut savoir d'elle. La nouvelle naissance transforme la vie qui est en existence, c'est-à-dire une vie qui va au-delà de ce qui est, de ce qui est acquis, de ce qui est posé ou imposé de paroles et de projets sur une personne. La nouvelle naissance, naissance d'en haut, signifie qu'à travers tout ce qui est, advient de l'inédit. Un inédit qui n'est pas lié à ce qui est, à ce qui est indépendant de ce qui le précède. C'est dire qu'il ne s'agit pas d'une évolution prévisible, ni de l'émergence de quelque chose qui serait déjà en germe à l'intérieur de la personne, mais d'une possibilité entièrement nouvelle qui la saisit telle qu'elle est pour un devenir dont nul ne peut savoir à l'avance à quoi il mènera. Il n'est donc pas question ici de vivre mieux ou de développement personnel, car ce n'est pas un effort de connaissance ou un effort de comportement qu'est invité Nicodème. La vie éternelle, ce n'est pas faire peau neuve, ni recommencer à zéro, ni même être autre, mais c'est un devenir donné par une autre origine, sous une nouvelle lumière, qui met à distance toute identité précédente. Et comme le signale avec justesse le philosophe François Julien, l'évangile de Jean ne travaille pas la notion de rupture comme le fait l'apôtre Paul à partir de son parcours de pharisien hyper-légaliste qu'il rejette jusqu'à le considérer comme ordure pour s'engager dans le service du Christ en mission d'annonce de l'évangile. Avec Jean, le devenir signifie que ce qui est, ce qui faisait la personne est pris en charge, mais éclairé autrement, compris autrement et orienté dans son ensemble dans la dimension de la vie éternelle. Celui qui est né de l'esprit n'est plus fermé, ni enfermé sur lui-même. Il devient un sujet troué d'éternité, ouvert à l'éternité. Et Nicodème n'a rien à prouver, rien à justifier, rien à compter, rien à préserver, seulement écouter. Écouter ce souffle, cette parole. Écouter, recevoir la vocation à la vie, vocation qui est don d'un amour. Amour d'être créateur, amour d'être grâce pure. Écouter et recevoir. Il ne s'agit pas d'engranger, mais de se rendre disponible à une expérience qui intervient, qui vient entre les éléments familiers constitutifs d'une personne et de son histoire. L'étymologie d'expérience évoque une traversée périlleuse, parce que ce n'est ni simple, ni facile. Certes, Nicodème a déjà une longue expérience de vie et de savoir, son statut, sa fonction, son autorité, il est l'enseignant d'Israël, indique d'une part qu'il n'est plus un jeune homme, et aussi qu'il est reconnu comme savant. Son expérience est aussi celle d'un cheminement au cours duquel il a développé ses connaissances, ses compétences, son intelligence, mais aussi sa conscience. Mais ce qui lui arrive au cours de cette nuit, c'est une autre forme d'expérience. Une expérience expérience qui est l'épreuve dans laquelle il est lui-même en jeu. Et cette expérience passe, nous dit le texte, par l'étonnement et l'ignorance. Être surpris et ne pas savoir. Ne t'étonne pas si je t'ai dit « il vous faut naître d'en haut à nouveau », dit Jésus à Nicodème. Et puis un peu plus loin, il lui dira « tu ne sais pas cela ? Tu es enseignant, le docteur d'Israël, et tu ne connais pas la liberté de l'esprit et la liberté de celui qui est engendré par l'esprit. » Alors Nicodème, peuple vainqueur, pharisien vénérable, chef des Juifs, enseignant, est étonné et ne sait pas. Et c'est une rude expérience, une expérience périlleuse pour ce qu'elle comporte, pour ce qu'elle exige d'abandon, de remise, de détachement et de dénuement. C'est le monde de Nicodème qui vacille. Ce qu'il est ne suffit pas, ce qu'il sait ne l'assure plus. Jésus l'a déstabilisé, mais c'est ce par quoi la vie peut advenir. Jésus l'a désassuré, mais c'est ce par quoi la confiance peut grandir. Seulement il se peut bien qu'il y ait alors un temps de vertige, de flottement, un temps où l'on ne sait tellement pas ce qui adviendra et ce qu'on deviendra. Alors Nicodème disparaît du récit. Dans la suite du chapitre 3, les paroles de Jésus, c'est un monologue. Il n'est même pas indiqué que Nicodème rentre chez lui, ni que le jour se lève le lendemain. Nicodème est comme mis en suspension, comme si la parole de Jésus l'avait bien accroché, mais qu'il se balançait entre deux, entre étonnement et ignorance, entre ce qu'il était et ce qu'il peut devenir. L'Évangile interrompt brutalement sa présence, et on pourrait presque l'oublier pendant quelques chapitres, le ranger au vestiaire des pharisiens incrédules, mais voici qu'il reparaît. Il est toujours pharisien, il est toujours savant, mais il a changé cependant, ce Nicodème qui, en plein jour, devant ses pères, intervient avec une question. Pas une affirmation, mais une question. Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il a fait ? Les pharisiens sont en colère parce que Jésus, par ses paroles et les signes qu'il accomplit, remis en cause leur enseignement, leur identité, leur spécificité, leur compréhension de Dieu et du monde. Même les gardes qu'ils ont envoyés arrêter Jésus ont été tellement impressionnés par ce que le Nazaréen a dit qu'ils sont revenus sans avoir accompli leur mission. Les pharisiens s'opposent de plus en plus violemment au rabbi de Nazareth. Et ils se servent de leur savoir comme d'un rempart contre les questions, les doutes, les paroles nouvelles. Mais aussi ils s'en servent comme d'une masse, une masse avec laquelle on assomme ou on écrase les adversaires. Et la loi devient un simple objet de connaissance en vue de maîtriser ceux qui ne la connaissent pas. Ce peuple maudit, disent-ils. C'est leur savoir qui justifie leur refus d'écouter et de croire. Il ne leur sert pas à expliquer ou à convaincre, mais il leur permet l'usage du mépris et de la force envers celui qui les conteste. Et la question de Nicodème vise à rétablir la véritable fonction de la loi, qui est de sauvegarder le droit à la parole d'un accusé, en neutralisant l'usage de la force et de la contrainte arbitraire. Mais ce faisant, Nicodème se désolidarise de ses pairs. Le pharisien se sépare des pharisiens en mettant en lumière l'usage pervers du savoir quand il vise à l'exercice du pouvoir. Nicodème, à ce moment-là, n'appartient plus à ce parti qui lui avait convenu jusqu'à sa rencontre avec Jésus. Il sort de ce cercle grâce au vent de l'esprit, dans le vent de la liberté qui l'engage en tant qu'homme singulier, dans un monde où l'abus et l'injustice ne sont pas tolérables. Peut-être dirait-on aujourd'hui de Nicodème qu'il est un lanceur d'alerte. Je vous parlais d'une expérience comme traversée périlleuse, et voici bien Nicodème en péril à ce moment, puisqu'il est lui-même visé par les accusations des pharisiens, il est presque considéré comme un traître. « Serais-tu de Galilée, toi aussi ?» Cherche bien, tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. » Déjà un peu avant dans l'Évangile, parmi la foule, si certains disaient au sujet de Jésus « c'est le Christ », d'autres rétorquaient « est-ce de Galilée que vient le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David, de Bethléem ? Bethléem est en Judée. La Judée, la province de la capitale Jérusalem, la province des savants, des religieux, du temple, des érudits, la province du savoir, du pouvoir, la province d'où l'on regarde avec mépris et condescendance la Galilée et les Galiléens, ces paysans et ces pêcheurs incultes, sans instruction, discriminés par avance et avec dédain. Nathanaël lui-même, avant de devenir disciple, avait commencé par exprimer un doute au sujet de Jésus. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth, en Galilée ? Mais quel est donc ce savoir qui s'en tient à un lieu de naissance pour juger de la qualité et de l'avenir, du devenir d'une personne ? Cette manière de généraliser, d'essentialiser à partir d'une caractéristique, eh bien c'est le pire ou le meilleur, mais le pire terreau de division et de ségrégation, avec leurs terribles conséquences d'objectivation des personnes dont on parle plutôt que de parler avec elles, des personnes qu'on catégorise plutôt que les laisser exister. Ce que Nicodème dit à ses pères, c'est qu'ils ne savent rien au sujet de Jésus, et savoir que Jésus est galiléen n'est rien. Il se peut que le savoir empêche de connaître et de comprendre. Deux verbes qui engagent leur sujet par le préfixe « avec » qui les compose. Le savoir attend, et son attente est précise. Il sait ce qu'il attend, et finalement c'est d'être confirmé. Mais quand on ne sait pas, ou quand ce qu'on sait est suffisamment mis à distance, non pour l'oublier, mais pour ne pas s'y enfermer, ou lorsque le rapport au savoir est suffisamment souple pour ne pas former une barrière, alors on se rend disponible à ce qui vient. Et être disponible, c'est autre chose qu'attendre. Ce qui a cheminé en Nicodème, ce qu'il a travaillé depuis sa rencontre avec Jésus, c'est entre autres que le rapport ajusté aux Écritures et à autrui, c'est celui de l'ouverture et non celui du jugement. C'est le rapport de l'écoute et non du préjugé. Ce que Nicodème a compris, c'est que le savoir est à suspendre, pas à supprimer, mais à suspendre pour que du nouveau vienne au jour. Et la suspension du savoir et du jugement relève de cette expérience de l'écart entre ce qui est et ce qui peut advenir. Ici, l'écart entre l'origine géographique ou familiale et l'origine divine. Cet écart où passe le souffle libre. Le savoir est alors revisité, assoupli, on pourrait dire, accordé à la liberté de l'esprit. Il n'est plus un obstacle, mais un espace délié de toute nécessité de légitimation de soi. Il devient un espace libre de ressources. Nicodème a pris la parole comme une personne singulière. Et cette prise de parole représente déjà une réponse à ce que Jésus lui avait dit lors de leur entretien nocturne. Il prend la parole parce qu'il en a reçu la possibilité, détaché qu'il a été de sa propre histoire, de son socle de savoir et de prestige. Alors peut-être ce détachement est-il lent ? Peut-être Nicodème avance-t-il lentement ? Alourdi qu'il est de toutes les épaisseurs de sa fonction, de son érudition, de son histoire, mais enfin il avance. Il avance jusqu'à ce qu'il s'avance vers la croix pour recevoir le corps de Jésus avec Joseph d'Arimathée, disciple en secret par peur des Juifs, dit le texte. De Joseph, pas de Nicodème. Nicodème est toujours celui qui était venu trouver Jésus de nuit. Mais il n'en faut pas plus pour qu'une autre accusation soit portée sur Nicodème, par Jean Calvin, qui désigne comme nicodémite les réformés de cœur qui cachent leurs croyances et continuent à aller à la messe par peur des conséquences. Calvin vise ainsi les clercs humanistes, évangéliques, l'entourage de Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, qui l'a pourtant beaucoup aidée, les intellectuels humanistes qui sont adeptes d'une spiritualité toute intériorisée, et puis aussi les marchands et les gens du peuple qui ne veulent pas être inquiétés. Pour Calvin, le cœur, l'âme, le comportement doivent être à l'unisson dans la foi et publiquement. Pas question de se cacher, de dissimuler ce qu'on croit réellement. Et pas question surtout de simuler être ce qu'on n'est pas. Ça, c'est le péché par trahison de la vraie foi. Péché dont la détestation aiguise la plume de Calvin dans plusieurs écrits extrêmement polémiques. De nos jours, il serait peut-être bien reproché à Nicodème et à Joseph d'Arimathée de cacher leur jeu, car aujourd'hui, beaucoup exigent que tout se sache. Tout, des convictions, des émotions, des démarches d'une personne doit être visible. Mais cette exigence de transparence ignore ou balaye l'intimité et la complexité propres à chaque personne, et puis aussi le temps nécessaire à chaque personne pour connaître et comprendre. Cette exigence de transparence conduit malheureusement, enfin c'est elle qui conduit à l'hypocrisie, et dans ce cas ce n'est pas Nicodème qu'ils font convoquer, c'est Tartuffe. D'ailleurs Jean Calvin finira par renoncer au terme nicodémite, se rendant compte que Nicodème a quand même témoigné publiquement de sa foi. En effet, Nicodème vient à la croix, il vient recevoir le corps de Jésus pour l'ensevelir. Il faut le faire avant la nuit, il fait encore jour, il faut le faire avant que le sabbat commence. Et Nicodème vient avec 100 livres d'aromates, ce qui fait pas moins de 32,7 kilos de myrrhe et d'aloès. Une quantité extraordinaire, démesurée, qui indique bien une autre dimension que le savoir embaumer un corps, c'est la dimension du croire. Nicodème, à ce moment, reconnaît ouvertement que la réalité de Dieu a été manifestée en Jésus de